Ce soir, nous avons la chance de recevoir Anne Kefelec et comme chaque soir, nous allons commencer en musique, mais nous allons en profiter, nous allons commencer en vous écoutant, Anne, interpréter Scarlatti. Où êtes-vous, Anne Kefelec, quand vous interprétez ce morceau ?
En effet, ça fait un peu voyager dans le temps pour moi, parce que c'est d'une certaine façon réécouter cette sonate que j'ai enregistrée dans cette version-là, il y a 50 ans, je réalise ça.
Mais vous aviez quel âge à 50 ans?
J'avais 20 ans. J'avais 20 ans, j'étais toute jeune, toute fraîche, faisant mes premiers pas. C'était mon tout premier enregistrement. En écoutant, je me disais, c'est un peu à la recherche du temps perdu musical. Et l'expérience que j'ai eue à travers ce recensement de disques que représente le coffret qui vient de sortir, de 21 CD, est-ce que je me suis posé la question, est-ce que j'ai dessiné à mon insu un portrait de moi à travers ce parcours? Qu'est-ce qu'on connaît de soi finalement? Est-ce que c'est pas davantage les autres? Enfin là, c'est une très vaste question qui déborde l'expérience de l'interprète, mais c'est vrai que c'est troublant d'une certaine façon. Donc j'étais un peu à la recherche du temps perdu.
Vous reconnaissez aujourd'hui votre style?
Cette sonate en particulier, elle est très plastique. Je la joue maintenant dit très différemment parce que je la joue, je pense, étonnamment, plus vite, alors qu'en général, on joue plutôt plus rapide dans sa prime jeunesse. Mais là, je la sentirais avec une sorte de flux peut-être plus rapide, mais il n'y a pas de vérité absolue. Et ça, c'est là le mystère et la beauté inépuisable de la musique, c'est que ce n'est jamais deux fois pareil, même par le même interprète et même dans l'heure qui suit, on ne peut pas revivre le moment exactement semblable. Donc c'est du temps la musique, donc c'est vrai que cette espèce de renouvellement indéfiniment là, c'est celui de la vie, c'est celui de la mer, comme disait Baudelaire, la musique souvent me prend comme une mer, mais il y a ce mouvement perpétuel de la vie qui est dans la musique, donc je ne peux pas vraiment répondre de façon très définie.
Qui étiez-vous il y a 50 ans quand vous jouiez cette sonate de Scarlatti?
Qui suis-je désormais? Je ne peux pas vraiment répondre. Mais
il y a 50 ans d'abord.
Voilà, j'étais donc une toute jeune fille qui, au fond, ce métier, je n'ai pas véritablement choisi de le faire un jour donné. Depuis ma plus tendre enfance, je disais toujours que je serais pianiste. J'imaginais que
quoi, ce serait 3-4 ans déjà.
À 4-5 ans, oui, je serais pianiste, mais dans la semaine et fleuriste le dimanche, parce que c'était, vous voyez, une espèce de fantasme de petite fille.
C'est pas mal comme programme.
Voilà, j'avais vu des pianistes sur la scène. Je trouvais ça des dames qui avaient des très belles robes. Enfin, je trouvais que ça avait quelque chose de très romantique qui donnait à rêver, bien entendu. J'avais pas la moindre idée de ce que ça voulait dire, évidemment, ni le métier de pianiste, ni le métier de fleuriste. Mais au fond, après, j'ai été tellement bien guidée par des merveilleux professeurs qui étaient à la fois des pédagogues et des humanistes aussi, des personnes extraordinairement cultivées en tout domaine et qui ont tenu à ce que je suive par ailleurs des études générales, au moins jusqu'au bac philo. Et puis après, les choses se sont enclenchées d'une façon naturelle, pratiquement sans que jamais je n'ai eu une sorte d'interrogation vraiment en me disant « Bon, maintenant, est-ce que c'est ma voix? Est-ce que c'est ça qui doit avoir la priorité ?» Je n'ai pas eu ce moment-là. Il m'est tombé dessus, si je puis dire, plutôt vers 25 ans, après que j'ai eu des succès dans les concours internationaux et que ma carrière, en fait, est démarrée relativement très tôt. Et tout à coup, j'ai eu l'impression que, tiens, est-ce que c'est ça maintenant? Si je voulais faire autre chose, est-ce que je pourrais? Est-ce que je suis légitime dans ce métier? Est-ce que je voyais certains de mes amis, notamment je pense à Catherine Collard, pour qui le fait de jouer, d'être musicienne, c'était ça ou mourir. C'était vraiment comme dire Rilke, que si tu ne dois pas mourir de ne pas écrire, n'écris pas. Elle, c'était ça. Et moi, je ne vivais pas mon rapport à la musique comme ça. Je me disais pas que je mourrais si je ne jouais pas. Je me rendais pas bien compte, ou est-ce que j'avais suivi ce vers quoi on m'avait si bien guidée. Donc je reconnais que j'ai eu un moment difficile de remise en question moi-même, mais très vite je me suis dit, bon ben tu n'es en effet pas, la musique n'a pas besoin de toi, non ça c'est sûr, mais par contre toi tu as besoin d'elle, et finalement elle t'a constitué. Donc à partir de là je me suis sentie beaucoup mieux, et maintenant je me sens, je n'ai plus, j'ai évidemment plus le choix, et je suis heureuse. Je me rends compte à quel point c'était un privilège d'avoir cette possibilité plutôt de vivre un métier qui est une passion. Donc l'amour de cette profession, c'est un trésor d'amour. d'avoir l'amour de son métier, vraiment. Et que très peu, il est donné à très peu de personnes de l'avoir. Donc, c'est un privilège de ce contact au quotidien avec la beauté, qui évidemment vous fait tout le temps aussi remettre justement en question, et rien n'est jamais acquis définitivement. Mais néanmoins, c'est une façon d'explorer son humanité qui est d'une richesse fantastique.
La musique vous a plutôt choisi donc dans votre enfance.
Oui, on pourrait dire ça, oui. Parce que nous vivions dans une grotte préhistorique véritablement, c'est-à-dire nous n'avions pas de voiture, pas de télévision, pas de radio même, pas ce qu'on appelait à l'époque tourne-disque, ensuite électrophone pour être plus moderne. Donc c'est arrivé peu à peu, il n'y avait même pas de frigidaire, il y avait des livres et un piano. Donc les mots et les notes qui étaient là, et dans le fond je suis un petit peu encore quelquefois déchirée entre les mots et les notes. Les mots, ou la littérature pour plutôt la nommer ainsi, ça reste une de mes passions vitales. Je ne peux pas me passer de livres. Et donc, ça c'est vrai que ça a été déterminant.
Est-ce que la musique se qualifie par des mots, pour vous ?
Non, justement, la musique, de toute façon, dépasse totalement le langage des mots. Elle dit autre chose. J'aime bien ce que dit Sioran, qui dit qu'on ne peut pas employer des mots pour qualifier des sentiments qui sont d'ordre musical. Et Proust dit la même chose aussi quand il parle du fait que s'il n'y avait pas eu l'arrivée du langage, l'invention du langage, la musique aurait peut-être été le mode de communication des âmes. Bien sûr, en effet, la musique dit autre chose que les mots, et je pense que c'est pour ça qu'elle existe. C'est parce que les mots ne suffisent pas.
C'est l'ineffable, comme dirait des philosophes.
Le cher Jean Kelevitch.
Eh bien voilà, celui que vous aimez tant, que nous aimons tant, dont nous aimons écouter la voix et qui a ô combien magnifiquement parlé de la musique. Oui. Nous allons l'écouter évoquer le langage de la musique et l'ineffable. C'est une archive INA du 13 novembre 1969.
Pour moi, la musique est une source d'exemple, ce sont des points d'appui. Quand je fais de la philosophie, je cite les musiciens. Et puis alors, d'autre part, la musique est aussi la source d'expérience en quelque sorte phénoménologique, c'est un art du temps. Qui se développe dans le temps et qui a en commun avec la métaphysique, la philosophie, de porter sur des riens, d'être inconsistante, impalpable, comme une bulle de savon, de n'exister presque pas. Car la musique, c'est quelque chose qui n'existe presque pas. D'abord, c'est un art du temps qui n'existe. Quand on n'entend pas la musique, elle existe encore parce qu'elle est sur les disques et parce qu'on la connaît par ailleurs. Mais autrement, elle n'existe qu'au moment où on la joue. Et d'autre part, en quoi consiste-t-elle? D'où vient son charme? D'où vient l'influence qu'elle exerce sur vous? Tout ça est le domaine de l'inconsistance. C'est un langage. C'est un certain langage. Sauf que c'est un langage qui vous pénètre des pieds à la tête. C'est un langage captivant. On ne le dirait pas à écouter certaines musiques contemporaines, mais probablement qu'il y a un malentendu sur le mot. C'est autre chose pour lequel il faudrait trouver un mot. Je sais que en Hollande ou en Pologne, on appelle ça la sonoristique, paraît-il. Ces gens-là font quelque chose, assurément, mais ce quelque chose est-il de la musique? J'en doute fort. Alors c'est quelque chose d'important, de nouveau, d'intéressant, mais ce n'est pas de la musique au sens où Schumann, c'est de la musique, par exemple.
Ah oui, écoutez, c'est un document vraiment précieux. En plus, vous avez précisé qu'il datait de 1969, cette voix de Jean Kelevitch qui s'exprime sur l'ineffable de la musique. Or, c'est vraiment dans ces années-là que moi, je l'ai croisé. J'habitais à la Cité des Arts en face de l'île Saint-Louis. Lui, il était au Quai aux Fleurs. Et je le croisais souvent sur la petite passerelle qui reliait l'île Saint-Louis au Quai aux Fleurs. Et je n'osais pas l'aborder parce qu'il était quand même impressionnant avec ce regard perçant sous des sourcils qui s'avançaient de façon très proéminente. Et même après sa mort, j'ai été invitée par sa veuve Lucienne à aller chez lui. J'ai déjeuné avec elle et je ne me rendais pas assez compte même de l'importance qu'il prendrait ensuite dans ma vie. Je l'avais très peu lu à l'époque et elle m'avait proposé de piocher dans ses partitions, et comme j'habitais, c'était tout petit chez moi, j'avais pas la place de prendre d'autres partitions que les miennes. Bêtement, je le regrette beaucoup aujourd'hui. J'ai décliné son offre, mais c'est tout ce qu'il dit, en effet, sur la musique, ce rapport au temps et à la philosophie, finalement, et ce lien on a la sensation qu'il pense avec la musique, à travers la musique, et c'est parce qu'il savait ce que c'était que de jouer, que d'écouter et que d'être pratiquement 2 heures par jour et jouer au piano. Et on sent que cette expérience-là, sensorielle, émotionnelle, il la connaît de l'intérieur et c'est vraiment extrêmement émouvant. Oui, c'est un cadeau vraiment pour les musiciens qu'il y ait eu ce penseur qui, par ailleurs, a une telle clarté aussi, je trouve, quand il parle de ses mystères. Parce que c'est pas abscons, on peut vraiment, il a les mots justes pour dire cela. À la fois juste et précis, en même temps dans le rêve, quand il parle justement de ce que représente la musique par rapport à la mort, par rapport au fait qu'elle est sur le point de nous guérir de la mort, et qu'en même temps, il faut accepter que c'est une forme de nostalgie, que du fait qu'elle parle de l'irréversibilité du temps qui est le sens de notre finitude, et par ailleurs, elle est réitérable. On peut rejouer la pièce qu'on vient de jouer, alors qu'on ne peut pas vraiment, en effet, revivre la matinée qu'on vient de passer, un jour d'année. C'est pas exactement la même chose. Et c'est vrai qu'il y a une forme de consolation dans cette façon de vivre le moment musical. Il dit, je me souviens qu'il fait la comparaison avec Orphée et Eurydice. Et voilà, qu'Orphée, il ne faut pas, et son erreur, c'est de se retourner, d'essayer de comprendre ce qui est derrière lui, comprendre que Eurydice est là, qu'il devrait simplement faire confiance et se contenter d'espérer, parce qu'il y a une forme d'espérance dans le fait de jouer de la musique, mais espérer quoi? Espérer en quoi? Il ne faut pas chercher à le savoir, sinon on tue l'enchantement musical.
Il dit aussi que tout n'est pas musique, même tout ce qui se dit musique n'est pas forcément musique pour lui.
Oui, oui.
Partagez-vous ce point de vue?
Je suis comme lui, nourrie par la musique dite tonale. Je suis, et d'ailleurs, émerveillée qu'on ait inventé cette musique incroyable, à travers ce système des tonalités qui crée entre les intervalles des champs magnétiques, des forces. Il y a des notes qui sont plus importantes que d'autres. Il y a des notes, ça s'appelle notes sensibles, par exemple, ou des intervalles dits augmentés, où il y a des tensions qui se créent comme ça, et des attirances entre les notes. Grâce à cette façon d'écrire, ça paraît peut-être un peu compliqué à dire aux auditeurs, mais c'est vrai qu'à travers cette méthode, cette écriture-là, il y a une dramaturgie possible qui est très puissante et génératrice d'émotions. Et par exemple, ça permet les modulations. Quand vous entendez dans certaines musiques des modulations, des harmonies inattendues qui arrivent, vous pouvez avoir des frissons physiques tout à coup qui vous parcourt mais vraiment c'est une traduction concrète, et je peux pas m'empêcher de me dire que c'est parce qu'à ce moment-là il y a quelque chose de soi qui passe, qu'on reconnaît, qui coïncide, et on a envie de dire là c'est une forme de vérité, parce que le corps ne ment pas. Il parlait des pieds à la tête, en effet, des pieds à la tête, si on a ce frisson, on se dit ah ben oui c'est ça, on a envie de dire oui c'est ça, la vie c'est ça, oui ça je connais, ça je le reconnais, et évidemment c'est cadeau.
Je le connais ou je le reconnais? La musique est-elle réminiscence ou découverte de soi-même, au plus profond de nous-mêmes?
Je pense qu'il y a beaucoup de réminiscence, oui, beaucoup de réminiscence. Mais ça peut aussi arriver en littérature, naturellement, quand sous la plume des grands écrivains, on trouve décrit, évoqué des sentiments, des émotions qu'on a soi-même traversées. On a envie de prendre son crayon, on souligne. Moi, je ne sais pas si vous lisez avec un crayon et si vous écrivez dans les marges, mais très souvent on se dit ah oui là, ça je connais ça je le reconnais, oui bien sûr. Mais on peut-être qu'on porte en soi aussi potentiellement quasiment l'universel humain après tout.
Vladimir Yankelevitch, en s'exprimant tout à l'heure, a parlé de celles et ceux qui savent entendre la musique. Entendre et écouter la musique, ce n'est pas la même chose pour vous, Anne Kefelec?
Il a raison. Et en fait, on dit volontiers que la musique classique est élitiste. Et moi, j'adhère à cette idée, mais pas au sens où elle s'adresse à une classe sociale privilégiée, mais parce qu'elle s'adresse à l'élite de chaque personne, à sa meilleure part, et elle est exigeante. Et moi-même, je reconnais que je ne suis pas toujours en état d'écoute supérieure et de grande qualité. Je peux être distraite. Au fond, savoir écouter, c'est savoir soutenir son attention aussi. Ne pas se laisser distraire de l'essentiel, ça demande tout de même une forme de rigueur, de discipline, et c'est difficile. Simone Veil aussi parle très bien de cette exigence de l'attention, une forme d'ascèse finalement. Entendre, écouter, c'est tout à fait différent. Et il faut dire, à l'époque actuelle que nous vivons, nous sommes submergés de fonds sonores tous azimuts. Là, bien souvent, on aimerait ne même pas avoir à entendre, mais qu'on vous inflige.
L'attention, il y a l'attention, elle a plus loin, tension, et puis il y a l'attention une apostrophe.
Oui.
Est-ce que ce sont deux vertus cardinales pour pouvoir justement continuer à être pianiste?
Ce sont des vertus cardinales dans beaucoup de métiers, dans le vôtre aussi. Et il y a un appel, une forme d'exigence de l'œuvre envers l'interprète. C'est une grosse responsabilité que nous
servante
avons.
De la musique, donc, pour vous.
Avec le transmetteur, parce que c'est le seul art qui se vive à trois. Un tableau, vous le regardez, il n'y a pas d'interprète entre vous et le tableau, tandis que entre une sonate de Beethoven et vous, et l'auditeur, il faut passer par l'interprète, qui va prétendre que voilà, c'est ça que Beethoven a écrit, donc il endosse cette responsabilité, il a cette charge-là, la charge d'âme, de son âme, et puis finalement de l'âme de l'auditeur aussi, par la même occasion. Et c'est vrai que je bénis que cet art de la musique ait besoin d'un tiers, parce que du coup, ça nous fait vivre...
Surtout, mais en même temps, vous passez toute votre existence à jouer d'abord toute seule avant d'aller au concert, produire.
Oui.
Donc votre vie quotidienne, c'est jouer
raison,
seule.
Mais c'est un mélange de solitude et de rencontre avec les autres. D'abord, on joue l'œuvre d'un autre dans la perspective de rencontre avec un public. Et au fond, le récital de piano, c'est assez unique en son genre par rapport au violon ou à d'autres instruments qui, en général, jouent avec d'autres partenaires. Le pianiste, en récital, il est seul. C'est une cérémonie secrète et publique en même temps.
Alors, je vous propose justement d'écouter un pianiste très reconnu, à la fois très admiré et à la fois assez critiqué, malgré la distance qui nous sépare du temps de sa disparition. Il est ô combien toujours écouté. Je veux parler de Glenn Gould.
Oui.
Et je voudrais vous faire écouter un document sonore. Il va parler de son dégoût pour les concerts.
Ah, oui.
Archive INA, 30 novembre 1974.
It was an enormously wasteful life for me at any rate. I think
c'était une vie de gaspillage pour moi et pour la plupart des gens qui la pratiquent. Je menais une existence vide et improductive à laquelle je ne me suis pas soumis longtemps. Je ne suis pas un enfant prodige au sens de Menuhin. Ça explique mon attitude envers le concert. Mais j'étais un enfant prodige au sens où, très jeune, je jouais des fugues de Bach. Mais sans les promener de Paris à Marseille ou à Hambourg ou ailleurs. Je n'ai fait des tournées qu'à 23 ans. Même pas au Canada, je n'ai pas joué avant l'âge de 20 ans. Je n'étais pas préparé à apprécier l'expérience du public et l'étrange ambiance de sport sanguinaire pratiquée dans les arènes de concert. Quand on m'a jeté dans l'arène, ce fut une expérience horrible et essentiellement anti-musicale.
Alors, nous venons d'entendre un court extrait d'un long entretien qu'a accordé Glenn Gould, donc c'était en 74. Que pensez-vous de la pratique et de l'exercice de Glenn Gould, puisque vous affrontez souvent au même répertoire, Anne Kefelec, et qu'éprouvez-vous par rapport à cette arène sanglante dont vient de parler Glenn Gould, c'est-à-dire le concert?
Alors, tout d'abord, j'ai une admiration infinie, naturellement, pour Glenn Gould, qui était un artiste totalement hors norme et une sorte de génie à sa façon dans son approche des œuvres qu'il réinventait, qui presque reconstruisait en les déconstruisant d'abord avec une approche totalement qui, à la fois libre et rigoureuse, parce qu'il s'autorisait tout, mais à l'intérieur d'une ascèse, justement, je parlais de ça tout à l'heure, mais vraiment, il avait ça. À côté de ça, non, je ne suis... Je comprends ce qu'il veut dire par rapport à la reine sanglante. Peut-être que certains musiciens le vivent ainsi, mais moi non. Au contraire, j'ai la sensation qu'il y a une fraternité magnifique dans une salle de concert, que toutes ces personnes rassemblées qui ne savent rien les unes des autres et qui s'assoient voilà dans un même lieu à un moment donné et pour partager avec l'interprète un moment de beauté de musique. Pour moi, c'est au contraire extrêmement réconfortant de communier. Si vous voulez, et en particulier à notre époque où on est là fanatique de connexion, de communication et où on a des followers ou des centaines d'amis et on voit en fin de compte la solitude n'est toujours pas évidemment anéantie pour autant. Et là, dans cette rencontre du concert, et d'ailleurs je l'accentue très volontiers en m'adressant au public avant, très souvent j'explique pourquoi j'ai choisi certaines œuvres, pourquoi je les ai rassemblées. Je ne parle pas de façon musicologique, mais j'explique le voyage un petit peu. Enfin, je donne le mot expliquer d'ailleurs ne va pas. J'introduis, disons, voyage. J'ouvre la porte. C'est une façon pour moi de dire au public vous êtes concernés autant que moi par ce qu'on va vivre ensemble et ce que nous allons partager. Et à ce moment-là, j'ai la sensation d'une circulation de musique et que le public, moi, m'inspire. Alors peut-être que Gould ne ressentait pas ça, mais le public me porte. Le public, le silence d'une salle pleine n'est pas le silence d'une salle vide. Il y a une forme d'énergie qui est là, des ondes qui sont envoyées et une sorte de quête, d'attente. Alors évidemment, il faut pas angéliser tout ça. Il y a forcément là-dedans aussi des gens qui vont tousser à des moments totalement inappropriés, qui vont éventuellement avoir oublié leur téléphone portable et vont le faire sonner. Donc il y a une fragilité du moment qu'il faut accepter. Il faut accepter que quelqu'un avale dans sa glottérité une très belle fin de phrase, pianissimo, très suave. Ça y est, alors ça, c'est vrai que ça m'arrive intérieurement d'insulter à ce moment-là la personne et de dire « Ah non, pas maintenant, non, 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 ne toussez pas !» Et puis boum, voilà. Donc ça, c'est vrai, mais ça va pas voyer jusqu'à la reine sanglante. Nous ne risquons pas notre peau, tout de même.
Étiez-vous une enfant prodige ?
Oh non, je dirais pas ça, parce que je ne me suis pas produite toute gamine. Enfin, la première fois que j'ai joué en public, je me souviens, j'avais des nattes encore, quand même, j'avais 12 ans, au grand amphithéâtre de la Sorbonne. Et c'était un moment où la ville de Paris récompensait toutes les personnes méritantes, les mères de famille de 20 enfants et c'était un public merveilleux d'ingénuité, des gens qui certainement n'avaient jamais mis les pieds dans des salles de concert. Et j'adore aussi je ne savais pas à ce moment-là, mais j'aime toujours me trouver face aussi au public des, entre guillemets, non connaisseurs qui sont prêts à s'abandonner à l'émotion de la musique.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez Joan Baez, Plaisir d'amour. Chagrin d'amour dure toute vie.
You brought me heaven right then when your eyes kissed mine. My love.
C'est pour vous que nous avons retrouvé cet enregistrement merveilleux de John Baez.
Ah bah écoutez, j'espère que vous avez eu des frissons des pieds à la tête et les auditeurs de France Inter aussi, parce qu'on peut avoir en effet à l'écoute de cette voix d'une telle suavité et puis ce mélange délicieux de français et d'anglais. Et je suis très touchée de réécouter ce bijou dans son entier, car j'ai eu la chance de... à plusieurs reprises, lors de week-ends chez des amis communs en Normandie, de rencontrer John Baez, et je l'ai même accompagné au piano dans Plaisir d'amour. Elle avait apporté quelques partitions comme ça, et elle m'avait dit est-ce que, voilà, je serais partante pour jouer, l'accompagner. Bien sûr, j'avais accepté avec joie, et on était toutes les deux dans un salon, voilà, comme ça, donc un plaisir, peut-être pas d'amour, mais en tous les cas, de complicité, de musicien. Et je trouve qu'elle a une douceur de voix. Étonnamment, ça me fait penser un peu à la douceur de la première sonate de Scarlatti par laquelle vous avez commencé l'émission. Il y a une sorte de souplesse, et puis les mots coulent comme une caresse. En fait, c'est extrêmement sensuel, évidemment, tout en restant avec une forme de sensualité innocente.
Alors, vous avez plus d'un tour dans votre sac, Anne Kefelec. On vous connaît, on vous célèbre depuis pas mal de temps sur toutes les grandes scènes de France, mais aussi d'Europe. On vous admire, on vient vous écouter. Mais en fait, vous ne correspondez pas à l'image assez lisse que vous donnez de vous-même. Je vous propose d'écouter un petit extrait.
Eh bien, Herr Mozart, pas mal du tout. Ah oui, incontestable, cela. C'est excellent. Vous avez donné là un opéra... tout à fait nouveau ce soir.
Oui, oui, nouveau, n'est-ce pas, sire?
Oui, certes.
Alors, vous avez été conquis, vous avez vraiment aimé, sire?
C'est certain, j'ai adoré, c'est mieux que tout. Encore que, n'est-ce pas, il va de soi que ça et là, je dis ça et là, il y ait, me semble-t-il, un zeste de...
Je vous suis mal, sire.
Oui, n'est-ce pas, en certains endroits, j'ai trouvé qu'il y avait... comment dire? Comment peut-on le dire, directeur? Un peu trop de notes, votre majesté. C'est cela. Très bonne formule. Un peu trop de notes.
Je suis désorienté. Il y a ce qu'il faut comme notes, majesté. Le nombre idéal, ni plus ni moins.
Mon bon ami, sachez que c'est un fait de la nature. L'oreille humaine n'enregistre qu'une certaine quantité de notes en une seule soirée.
C'est un extrait du film Amadeus, le formidable film de Milos Forman. Et c'est vous qui jouiez?
Oh, j'étais une musicienne engagée, en effet, pour la bande-son de ce film, effectivement, tout à fait exceptionnel. Mais malheureusement, je n'ai pas... pas été invitée sur le tournage de ce film. Et j'ai beaucoup regretté, je n'ai même pas croisé Milos Forman. Donc c'était très frustrant finalement comme expérience. Mais néanmoins, je suis évidemment ravie d'avoir apporté ma petite contribution de quelques notes. Là.
Et le trop de notes que vous inspire Tine
Oh, mais ça fait partie de ces réflexions de cuistre, de personnes qui semblent s'y connaître et qui font la charité de leur expérience envers le pauvre malheureux génie, là, qui ferait bien d'en prendre de la graine. Ça n'a aucune importance. Une personne, une fois, disait, après un concert au grand chef d'orchestre anglais, Thomas Beecham, qui venait de diriger justement une symphonie de Beethoven, elle lui dit, vous savez, maître, comme si c'était très important, je n'aime pas Beethoven. Et lui répond, avec un bon rire. Franchement, madame, ça n'a aucune importance. Bon, et puis, c'est pas dramatique. Donc, non, ça, il faut pas s'en faire. Et puis, bien sûr, Mozart est un compagnon de vie pour moi. J'ai parfois tendance à me dire, c'est l'homme de ma vie, parce que c'est un grand connaisseur de l'amour sous toutes ses formes, aussi bien de l'amour trahi que de l'amour de l'adolescent qui découvre de Chérubin, que de la comtesse, que de Don Giovanni, et puis toutes ses suivantes extraordinaires, Così fin tutte, etc. Tous les états amoureux, il les a explorés, et ce grand compositeur d'opéra, justement, qui aimait tellement le théâtre et cette représentation du destin humain. Il disait que quand il écrivait un opéra, je suis excitée comme un lièvre dans le poivre.
Pas mal. Eh bien, écoutez, je vous propose d'écouter quelqu'un qui est excité comme un lièvre dans le poivre quand il travaille avec vous. Et cela fait longtemps que vous avez un compagnonnage avec lui. Il est chef d'orchestre et il s'appelle Jean-Claude Casadesus. Écoutez-le.
Si vous me donnez 2 minutes, je vais pouvoir vous en le dire. Alors, on a beaucoup de qualités. Je pense que c'est une très grande pianiste, d'abord, c'est ça aussi qui m'a donné le désir de jouer avec elle, mais au-delà d'être une pianiste, c'est une très grande musicienne. Et parce que vous savez, vous avez souvent des instrumentistes qui jouent très très bien, ils font toutes les notes, mais elle est là, elle va au-delà. Et elle est capable de transmettre la métaphysique, c'est-à-dire l'au-delà du réel, d'une œuvre. Et je trouve qu'elle me fait penser, si vous voulez, elle me fait penser... J'adore Schubert, c'est une grande interprète de Schubert, et je me suis dit, elle pourrait être la jeune fille à la perle de Vermeer, parce que je trouve que Vermeer a la transparence également, et la clarté, et le clair-obscur de Schubert. Et donc, elle a cette capacité, je veux dire, d'une personne qui connaît bien la littérature aussi, de s'immerger dans une œuvre, et de lui permettre de donner toute sa... Je veux dire, toute sa dimension. Voilà. Alors, vous savez, comme moi, qu'elle a été une lauréate de grands concours internationaux, mais surtout, elle est une vraie, je dirais, une vraie musicienne, une personne qui a beaucoup de profondeur, qui a une clarté, qui a, dans son jeu, qui a une clarté organique, une évidence, et elle a le sens des styles. Et les styles, c'est très important, parce que c'est l'identification aux œuvres. C'est une grande interprète des grands classiques, de Bach, Mozart, Schubert, et elle a une capacité éclectique au noble sens du terme de nous transmettre la poésie et l'émotion des œuvres qu'elle aborde. Shakespeare disait « La musique porte en elle un charme si puissant qu'elle fait d'un mal un bien et d'un bien une douleur. » Et Braque répondrait aujourd'hui, car il l'a dit, « L'art est une blessure qui devient lumière. » Et voilà, c'est toute la magie des œuvres musicales, c'est que elles sont la traduction la plus profonde de la spiritualité la plus élevée. Et nous partageons aussi, ça je sais qu'elle adore cet écrivain et ce poète, nous partageons aussi le même amour pour Rilke, qui a écrit notamment dans les lettres à un jeune poète des phrases immortelles et qui sont des modèles pour des artistes. Voilà.
Vous vous cachez derrière votre foulard devant autant de compliments, Anne Kefelec. Mais que veut dire un style en musique? Jean-Claude Casadesus vient de dire que, avec vous, oui, on peut reconnaître le style.
Le style, je pense qu'il fait allusion au caractère du style des œuvres davantage. Le style mozartien, le style...
Mais par exemple, le style mozartien, ça veut dire quoi pour vous? Parce qu'il y a tellement d'interprétations de Mozart.
Il y a effectivement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une vérité absolue arrêtée dans par rapport à une époque ou à ces œuvres-là, parce que tout à l'heure quand Jean Kalevitch évoquait la musique de non tonale dite contemporaine, en fait pour moi toute musique qui me touche et ma contemporaine. Donc pour moi, Mozart est mon contemporain, Beethoven est mon contemporain. Le temps de la musique est un hors-temps, en quelque sorte. Et le style...
Y compris les musiciens contemporains qui créent aujourd'hui.
Oui, absolument. Absolument. Quand ils vous touchent, ils appartiennent à ce même temps hors-temps, cette autre temporalité de la musique.
Donc la musique, c'est la saisie hors du temps.
C'est la saisie d'un autre temps. Oui, c'est la saisie, quelque part, comme disait notre encore cher Rilke et Jean Kalevitch, quelque part dans l'inachevé, donc dans l'infini, l'amorce de l'infini, l'amorce de l'éternité, du sentiment d'éternité que la musique me rend plausible et familière presque.
Mais ça vous arrive quand? Ça vous tombe dessus quand? Quand vous jouez, au moment même où vous jouez ou après le concert?
Ah non, c'est plutôt quand on joue, c'est-à-dire on a quand même la sensation qu'en effet, quand on est en train, notamment dans un concert, qu'on peut étirer le temps, que ça devient une matière plastique en quelque sorte, qu'on peut modeler comme une sculpture. Pour moi, c'est la musique une sculpture de temps et de silence. Vous la modelez, vous lui donnez une forme. Et c'est vrai que cette forme, alors là, pour revenir au style, le style de Mozart, c'est pour moi, quel est son langage? Quel est son outil? Comment est son écriture? Qu'induit-elle, si je puis dire? Et à travers, par exemple, quand on joue une sonate de piano, si on connaît les opéras de Mozart, déjà, on se rapproche d'une sorte de vérité du style, si vous voulez. Parce que, à ce moment-là, on entre dans son imaginaire. C'est peut-être plus l'univers propre à chacun, qui pour moi serait le respect de l'esprit de leur musique, peut-être plus encore que du style.
Ça veut dire être à l'intérieur d'un créateur, de son imaginaire, de sa manière de composer de la musique, mais aussi de connaître la manière dont il vivait, les enjeux historiques.
Peut-être. Moi, je trouve toujours ça intéressant, bien sûr, de connaître par ailleurs dans quoi ils étaient plongés.
Parce qu'il y a même des musiciens qui estiment que pour pouvoir redonner le son, par exemple, d'un musicien de la Renaissance, eh bien, il faut jouer sur des instruments qui sont de la Renaissance. Que pensez-vous de cette espèce de nécessité pour certains musiciens faire adéquation pour ce son-là entre le temps d'avant?
Oui. Il est bon de le connaître, de savoir ce qu'ils entendaient, mais par ailleurs, il y a aussi l'idée que les œuvres voyagent avec nous dans le temps, elles nous suivent, elles ne sont pas arrêtées, et j'aime beaucoup ce que Scarlatti écrivait dans une préface à l'intention de son interprète. De son vivant, il n'y a eu que 30 de ces 555 sonates qui ont été publiées. Et il termine en disant « Montre-toi plus humain que critique, ainsi tu augmenteras ton propre plaisir, sois heureux. » Comme si tu es heureux de me jouer. Et moi, j'ai écrit ces sonates pour le clavecin, je jouais au piano. Si tu es heureux, tu es dans le vrai. Donc, pour moi, c'est une clé, ça, qui est valable à toutes les époques.
Nous allons écouter la voix d'Alfred Brendel. Je crois qu'il est très important dans votre parcours et votre itinéraire. Il va évoquer ses influences et l'incomplétude du piano seul. C'est une archive INA du 18 novembre 1975.
Precisely, I was without a regular teacher after my 16th year. I had teachers at the beginning, yes. But after this period of basic teaching,
eh bien, au-delà de ma 16e année, il est vrai que je n'ai plus eu de professeur régulier. Bien sûr, au tout début de mes études, j'ai eu des professeurs. Mais au-delà de cet apprentissage de base, j'ai travaillé et j'ai cherché, pour ainsi dire, tout seul. Bien entendu, j'ai subi des influences très importantes, et plus particulièrement celle d'Edwin Fischer, qui m'a laissé une profonde impression, qui m'a donné un véritable idéal musical, qui m'a apporté quelque chose de très vivifiant et de très stimulant, constamment présent en moi. Mais j'ai aussi beaucoup appris auprès de Furtwängler, avec qui j'ai eu le privilège de jouer quelques fois. Eh oui, en général, je dois reconnaître que j'ai davantage appris auprès des chefs d'orchestre et des chanteurs que des pianistes. Voyez-vous, finalement, je ne crois pas que le piano, en tant que tel, soit tout à fait complet et intéressant pour moi. Il me semble, au contraire, que ce n'est qu'un moyen pour le pianiste de pouvoir accéder à bien d'autres domaines, celui des instruments de l'orchestre, celui de l'orgue, celui de la voix, celui de l'expression poétique, etc. En fait, à tout ce qui peut apporter un élargissement de ses connaissances. Sinon, le piano, la technique comme une fin en soi, c'est très vite ennuyeux. Et c'est ce que j'essaie constamment d'éviter.
Ah oui, mais d'abord je suis émue, je suis toujours profondément heureuse de recroiser son chemin. Et ça a été vraiment cette rencontre avec Alfred Brendel quand j'avais 20 ans, a été vraiment déterminante pour la suite de mon parcours, de mon approfondissement, de mes interrogations au sujet de la musique et notamment de la grande musique germanique, puisque j'ai surtout travaillé Mozart, Beethoven, Schubert avec lui. Et c'est vrai que le piano, au fond, est un instrument à part, car c'est en effet un orchestre à lui tout seul. Et il prend en quelque sorte sa revanche sur les autres instruments plus purs, entre guillemets, comme les cordes, qui eux-mêmes éventuellement, l'instrument en tant qu'objet peut traverser les siècles, hein, Stradivarius, ça ne vieillit pas, si on l'entretient bien, au contraire, il se bonifie avec le temps, alors que pas du tout le piano. Et puis nous, en tant que pianistes, nous ne pouvons pas prendre notre instrument dans les bras, nous n'avons pas le même rapport de prolongation de soi à travers l'instrument qu'ont les instrumentistes à cordes, par exemple. En revanche, nous avons un répertoire inouï, car en effet, le fait d'être un instrument polyphonique nous permet l'harmonie et la mélodie. Donc, le champ est immense, le champ d'exploration pour les grands compositeurs qui se sont donnés à cœur joie, justement, et pour notre plus grand bonheur pour les pianistes, à travers ce champ d'exploration que représente l'instrument piano, qui au fond est en effet davantage un outil presque qu'un instrument. Cela étant, je veux quand même rendre hommage et remercier l'instrument piano en tant que tel, parce que je le trouve beau, je trouve que c'est beau un piano sur une scène, je trouve que, évidemment, c'est un meuble aussi, et on ne peut pas le prendre dans les bras, mais il est beau avec son aile ouverte, on dirait un peu un bateau peut-être, enfin, je trouve qu'il donne à rêver, et il peut être un symbole d'autre chose, et quand un piano est bien réglé, le son du piano permet aussi une échelle de nuances, d'ailleurs, que maîtrise tellement magnifiquement Alfred Brendel. Donc, il faut aussi remercier le piano. Je trouve qu'il est un tout petit peu ingrat envers l'instrument.
C'est Mozart ou c'est le piano, votre compagnon, votre vrai compagnon dans la vie ?
Nous sommes obligés de nous. On ne peut pas avoir une fixation sentimentale sur un piano donné. Donc, nous sommes obligés à une certaine distance, puisque chaque fois que nous allons dans une salle de concert, nous sommes confrontés à un partenaire différent. Donc, il faut apprivoiser le partenaire. Ça va très vite. On a très peu de temps.
Vous dites partenaire.
Ah oui, c'est partenaire. Ah bah oui, et comment ?
Comme s'il était vivant.
Il y a un peu de ça, oui, il peut ou il peut pas. Et puis alors, quelquefois, quand il peut, il va au-delà de ce qu'on pourrait rêver, il vous donne des sons qu'on n'aurait même pas osé imaginer. D'autres fois, on sent qu'il renacle et qu'il va falloir suppléer à sa pauvreté de sonorité. Et parfois, on peut y arriver et ça fait partie du métier de pianiste, ça, c'est vrai, cette adaptation.
Ça dépend de vous ou c'est le piano qui décide ?
Je n'aime pas quand on dit on dit ça facilement, il n'y a pas de mauvais piano, il n'y a que des mauvais pianistes. Je ne suis pas d'accord, il y a aussi des mauvais pianos.
Pianistes.
Voilà, un mauvais pianiste sur un mauvais piano, c'est vrai que ça ne va pas tellement. Mais malgré tout, il y a quand même un bonheur du son, du beau son d'un piano bien réglé qui est incomparable.
Dernière question, Anne Kefelec, vous sortez ce merveilleux album de 21 CD de concerts depuis l'âge de vos 20 ans,
oui.
Avec un répertoire classique absolument remarquable. Est-ce que l'âge, l'expérience a à voir avec la profondeur de l'interprétation ?
Qui l'ose ça ? Ce que sont peut-être les auditeurs qui peuvent répondre. Je crois que chaque moment peut avoir sa profondeur. Il y a des pièces qu'on peut jouer peut-être avec une intuition très exacte quand on est très jeune et puis qu'après même on va peut-être pas retrouver de la même manière. Il y a bien sûr une perception qui s'affine aussi et une compréhension plus approfondie, plus fouillée aussi de ce que ça représente. Mais il y a quand même toujours le moment même où justement, au-delà de ce qu'on a, ce qui est de l'ordre de sa propre volonté et de sa lucidité, le don du moment, la grâce du moment, l'état de grâce, et ça on peut l'avoir à n'importe quel âge. Et ça ne se décrète pas, et c'est donné, ça fait, là encore une fois, dans ces cas-là, on ne peut que dire merci.
Ben c'est moi qui vous remercie, Anne Kefelec. Je rappelle que Erato publie les enregistrements complets de vous, 21 CD, et puis que c'est très bientôt les folles journées de Nantes, où vous êtes toujours une fidèle compagnera.
Oui, et ils me sont fidèles aussi, donc évidemment c'est magnifique pour moi. Par ailleurs, j'ai la chance aussi de continuer à enregistrer pour Mirare.
It's hard to believe it's still you. Oh, it seems hard to believe it's still you. I'm talking about, yes, wherever I stutter, you know, with you. And I know for a fact it's got little to do with the stranger I see. It's just that I miss who I used to be. So I walk away and pretend it's not you that I'm running from. Just when I think that I'm free, I bump into you. And I wish I could change, 'cause it's all been said. I wish I could end this sick little game I play. If I ever forgive, there's one to talk about you. And whatever they say, whatever you do, my love will remain exactly the same for you. It's right till the end. It's just me and you, hand in hand. It's just me and you. And I know for a fact it's got little to do with the stranger I see. It's just that I miss who I used to be. Oh, it seems hard to believe it's still you I'm talking about. Yes, wherever I start, I end up with you. Yes, wherever I stop, I end up with you. Yes, wherever I stop, I end up with you.
Aujourd'hui, une journée spéciale sur France Inter pour la sortie de son nouvel album Soliloquie, demain, 1er février. Vous avez donc entendu Lou Doyon et Cat Power avec ce titre It's You. Merci à toutes et à tous. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Élise Christophe qui était à la technique ce soir. Merci à Anne-Sophie Dazard, Élodie Royer, Antoine Joubert qui ont préparé cette émission. Et merci à Lilian Allôme qui l'a réalisée. Après le prochain journal de la rédaction, vous avez rendez-vous avec l'ami Mishka Sayas. pour son Very Good Trip.